Bonjour, bonsoir, auditeurs de tous les horizons et cinéphiles perdus sur Internet à une heure tardive. Bienvenue dans ce podcast qui s'enregistre sans préméditation, à la suite de l'annonce au 74e Festival de Cannes de la victoire de Titane, de Julia Ducournau et de son obtention de la Palme d'Or. Je ne vais pas vous mentir, cette nouvelle, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le dernier film de Julia Ducournau, deuxième film de la réalisatrice après Grave, obtienne cette récompense, et je l'avais découvert quelques jours avant la cérémonie de clôture, et sur le moment, je ne savais absolument pas quoi en penser. Je suis toujours en stade de réflexion, en fait, et c'est pour ça que j'enregistre ce podcast, c'est pour étayer cette réflexion en vous partageant les arguments et les différentes pistes, en fait, d'analyse que j'ai nourries au fur et à mesure que le film a macéré en moi, et qui vont permettre de comprendre pourquoi est-ce que quelque chose s'agite dans mon âme de cinéphile, et pourquoi est-ce que, même si je n'ai fondamentalement pas aimé ce film, je pense que c'est le premier constat par lequel je me dois de commencer par honnêteté, je n'aime pas du tout ce film, et pour autant, il nourrit chez moi une fascination certaine et comme un besoin, comme une envie, un désir physique de le défendre. Ce qui est quand même une contradiction assez énorme, en particulier chez quelqu'un comme moi qui est cinéphile et qui est pratiqué la critique de film. Je n'arrive pas vraiment à m'expliquer, en fait, cette dichotomie, ces deux dimensions de moi-même qui sont en train de s'affronter, ces deux regards que je porte sur une même œuvre qui n'arrivent pas à se concilier. Et je trouve intéressant que je vous parle un peu de mon rapport à ce film pour essayer peut-être, parce que je sais que c'est un film qui a laissé beaucoup de gens sur le carreau et que c'est un film qui a mis en interrogation bon nombre de spectateurs et de spectatrices. Et je me dis que peut-être, grâce à moi, ou en tout cas un tout petit peu, voilà, ma petite pierre à l'édifice de votre propre construction cinéphilique face à ce film, on pourra ensemble aboutir à une sorte de réflexion commune à son propos. La première chose par laquelle il me paraît important de commencer, c'est de dire que j'attendais beaucoup Titane. Je n'y suis pas allé en étant totalement vierge de ce dont il s'agissait, je savais très bien que c'était le deuxième film de Julia Ducournau, j'avais vu son premier long métrage, Grave, qui est un film que j'adore et que j'ai énormément défendu au moment de sa sortie parce que je trouve que c'est vraiment un film très très intéressant, très bien écrit, très bien mis en scène, qui est vérolé de thématiques extrêmement intéressantes et d'une façon de traiter l'horreur et le cannibalisme qui sont absolument passionnantes, notamment en traitant le cannibalisme dans l'un de ces trois aspects qui n'est jamais traité, c'est-à-dire que le cannibalisme, comme phénomène anthropologique, c'est soit une pratique rituelle, soit une pratique de survie, soit c'est, entre guillemets, une sorte de paraphilie, c'est-à-dire une sexualité déviante. Le cannibalisme comme pratique sexuelle, c'est-à-dire comme domination ultime que l'on peut avoir à l'autre, et le fait de dévorer l'autre comme jouissance malade et monstrueuse de son pouvoir sur autrui. C'est quelque chose qui a été extrêmement bien documenté, notamment chez les profilers et dans la psychologie criminelle. Comment est-ce que le cannibalisme est une concrétisation d'une sexualité, en fait, de violence que l'on exerce sur autrui. Et moi, ce que je trouvais passionnant, justement, dans Grave, c'est que le cannibalisme est traité dans sa dimension sexuelle, c'est-à-dire dans sa dimension de désir au sens vraiment de désir sexuel, violent, de désir de posséder le corps de l'autre, et non pas de l'embrasser, mais de s'en nourrir, de le posséder jusqu'à le manger. Et j'adore cette approche, je trouve que c'est... déjà, ça manque au cinéma, parce que, voilà, c'est même si c'est compliqué de représenter ce genre de choses, c'est quand même une approche qui est extrêmement intéressante dans la représentation de ce qu'il peut y avoir de plus noir chez l'humain. Et rien que pour ça, c'était intéressant de faire un film avec cette approche-là, mais surtout, ce que j'aime particulièrement dans Grave, c'est que au-delà du fait que le cannibalisme et l'éveil du cannibalisme du personnage est traité comme un éveil à la sexualité, de façon très concrète, c'est que c'est approcher cette thématique avec le plus grand réalisme possible. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé au visionnage de Grave et qui m'avait fait aimer le film à ce point-là, c'est que Grave est réaliste. Et réussir à construire un film sur le cannibalisme qui soit réaliste, réaliste au sens de Moi, spectateur, qui sais que je suis en train de regarder un film, par les différents agencements scénaristiques, je me mets l'espace d'un instant par la suspension de mon incrédulité à croire que ce que l'on me montre est possible. Moi qui ai un esprit qui justement ait beaucoup de mal à adhérer à des choses totalement fantasques, etc. Ce qui expliquerait d'ailleurs plein de mes goûts cinématographiques, hein, le fait que fondamentalement moi j'ai énormément de mal à adhérer à des récits totalement fantasques. Là, le fait que j'y ai cru d'un bout à l'autre, que je me dis mais en fait c'est possible, il est possible que ce genre de choses arrive réellement. Et tout ça, tout, voilà, j'ai un petit peu détaillé, mais ce sont surtout des éléments scénaristiques, mais on pourrait parler aussi de la grande sophistication, sobre de la mise en scène du film, que moi je trouve extrêmement élégante, avec de très très belles scènes de quotidien, etc. Enfin, vraiment Grave est un film que j'aime énormément. Et donc, voir Titane était forcément un désir un peu caché, presque pas assumé, de voir cette prouesse reconduite. Et là où Julia Ducournau a... Bah, elle m'a eu, en fait, c'est que Titane n'est absolument pas dans le même registre que Grave. C'est-à-dire que si on fait vraiment... Soyons caricatural 2 secondes et ensuite on va affiner. Si on peut considérer que Grave, justement par sa volonté d'approche réaliste, est un film un peu naturaliste, voilà, avec des gros guillemets et sur certains aspects, Titane est une œuvre qui est totalement baroque. Et je m'attendais pas à ça. Et contemplant cette œuvre baroque, qui donc se caractérise par une surcharge d'effets, par la volonté d'incarner des images horrifiques et des images, pas nécessairement horrifiques, mais des images, on va dire, dérangeantes, avec une espèce de démesure dans leur représentation, c'est-à-dire qu'on y va à fond, et là où, d'ailleurs c'est intéressant parce que je pense que le thème de la paraphilie est un thème qui, donc de la sexualité déviante, est un thème qui intéresse beaucoup Julia Ducournau, là où elle traitait le cannibalisme. Dans Titane, on pousse encore le curseur plus loin et on va dans la mécanophilie. Et on a des scènes de mécanophilie dans Titane, c'est-à-dire la mécanophilie, le fait d'être attiré sexuellement par les engins motorisés, comme les motos, les voitures, les avions. Et on va dire qu'en fait, cette façon de pousser tous les curseurs dans la revendication du monstrueux qui s'ancre quand même dans un certain contexte réaliste, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a priori, en tout cas dans un premier temps, rien dans Titane qui ne serait pas réaliste, mais alors faut vraiment qu'on aille aux frontières de ce que l'humanité peut faire et de ce qui est permis par notre propre compréhension de la déviance de nos compatriotes du genre humain, voilà pour le dire comme ça. Je n'ai, contrairement à Grave, pas du tout été réceptif à cette proposition. Et tout en n'y étant pas réceptif, je me suis surpris à plusieurs moments du film à me faire cette réflexion qui était de j'aimerais aimer ce film, je vois des choses que j'aimerais aimer dans ce film, mais je n'arrive pas à adhérer à cette proposition. Et donc, sortant de la salle assez décontenancé d'une part de ne pas avoir vu quelque chose d'aussi sobre et sophistiqué que Grave, mais de m'être pris une espèce de rouleau compresseur baroque rempli de références cinématographiques qui ne sont pas les miennes. Hein, je veux dire, moi, Crash, j'aime pas. Christine, je l'ai pas vu, mais le cinéma de John Carpenter, c'est pas un cinéma qui, on va dire, fait partie de mon imaginaire cinématographique. Donc déjà, j'arrive, on va dire, avec un problème avec le film, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment fait pour s'entendre. Voilà, c'est-à-dire que quelque part on peut totalement prendre Titane comme une sorte d'extrapolation des références et on se dit ok, dans Christine il était question de la sensualité avec la voiture, cette fois on va baiser avec la voiture. Enfin, je veux dire, c'est une façon un petit peu caricaturale de décrire la démarche de Ducournau, mais il y a un peu de ça quand même dans cette extrapolation des images, dans cette extrapolation des séquences qui est, je pense, en fait la principale chose qui m'a dérangé parce que Grave n'extrapole pas grand-chose. En fait, Grave ne va pas très loin dans ce qu'il montre, pour la bonne et simple raison que Grave a vérolé au corps, je pense, cette idée que je dois rester réaliste, je dois rester crédible, là où cette limitation, quelque part, n'a plus du tout cours dans Titane, et on va vraiment vers un spectacle qui est totalement baroquisant et qui, en faisant sauter les digues du réel, et donc avec le réel meurt le vraisemblable. C'est-à-dire que moi, la deuxième chose qui m'a beaucoup dérangé dans Titane, c'est le fait que plein de situations du film, par exemple la mécanophilie, parce que voilà, je suis quelqu'un de très humaniste, mais j'ai du mal à concevoir humainement que tu puisses désirer sexuellement un engin motorisé, c'est-à-dire, mais en fait, non sans jugement, je veux dire, il n'y a pas de, je suis pas en train de dire que les gens qui sont mécanophiles sont des connards, mais je n'arrive pas à concevoir comment c'est possible. Et cette barrière du réel, elle est déjà franchie, déjà avec avec cet élément de scénario-là qui arrive très tôt dans le film, c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus, mais elle est également franchie avec le fait que plein d'éléments de scénario, notamment tout ce qui tourne autour du fils disparu, relève pour moi strictement du nanardesque. C'est-à-dire que je ne crois pas à une seule seconde que la situation qu'on me raconte avec le fils du disparu soit possible. En fait, je n'y crois pas. Et n'y croyant pas, je ne peux pas accepter ce qu'on me montre parce que je n'accepte pas le contexte scénaristique qui rend les images possibles. Et là, on va aborder quelque chose qui est pour moi primordial lorsqu'il s'agit d'analyser une œuvre, en fait, c'est de classer la démarche esthétique de son metteur en scène ou de sa metteuse en scène, quand même dans un certain carcan, parce que ça nous permet de penser en ayant des bases, et donc après de développer un discours qui soit fondé sur quelque chose auquel on puisse rattacher le film. Et je pense que la première chose qu'il faut dire sur le cinéma de Julia Ducournau, ce qui m'avait un petit peu frappé dans Grave, mais qui là explose dans Titane, c'est que c'est une formaliste. Et chez moi, je sais que chez certains confrères critiques et chez certains confrères cinéphiles, le mot formalisme est un défaut. Pour moi, pas du tout. Hein. Tu peux être formaliste, c'est très bien. Il y a beaucoup, beaucoup de réalisateurs que j'aime énormément qui sont des formalistes. Mais pour moi, il y a, on va dire, un usage du terme qui est utilisé un petit peu pour dire ouais, en gros, c'est joli, mais t'as rien à raconter. Le formalisme, c'est plus subtil que ça. C'est vraiment traiter cinématographiquement et esthétiquement une image, d'abord pour ce qu'elle est, avant de se demander ce qu'elle raconte. Un exemple très concret de ça, dans le cinéma contemporain, c'est Nicolas Winding Refn, par exemple. Nicolas Winding Refn filme des choses parce qu'il a envie de les filmer. Et après, il va se poser la question de comment est-ce qu'il va les intégrer dans un contexte scénaristique. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc de je filme une image parce que cette image est puissante, par contre, j'en ai rien à foutre qu'elle raconte quelque chose. Et pour moi, c'est exactement cette démarche esthétique que l'on retrouve dans Titane. Ce qu'on voit dans Titane, ce sont des couleurs, ce sont des mouvements de caméra, ce sont des situations, c'est un traitement du corps comme objet, sans jamais se poser la question de est-ce que c'est crédible? Est-ce que ça raconte scénaristiquement quelque chose? Non, on me montre une image parce que l'image en elle-même est puissante, parce que l'image en elle-même est un monde, et que l'image suffit à raconter. Suffit à raconter et suffit à se raconter. Et cette démarche formaliste, moi, c'est quelque chose que j'affectionne. Je veux dire, j'aime les metteurs en scène qui n'ont pas peur du tout d'aller là-dedans. C'est-à-dire, bah, une de mes scènes préférées de tous les temps du cinéma, c'est l'intro du film The Lobster de Yorgos Lanthimos, où on voit une femme qui abat un âne en lui tirant dans la tête. Un âne, l'animal, quoi. Je veux dire, le cousin un petit peu trapu et poilu du cheval, disons celui qui n'a pas eu de chance dans la sélection génétique de la fratrie, pour le dire poliment. Voilà, cette scène-là n'a aucun contexte scénaristique, on ne nous explique pas pourquoi cette scène a lieu, et elle n'aura aucune suite. Mais la force de cette image, dénuée de contexte, se suffit à elle-même. L'image se suffit à elle-même. Et c'est en ce sens-là, pour moi, que l'on peut dire que Yorgos est un formaliste. Et dans Titane, cette logique, elle est poussée jusqu'au bout. À aucun moment, par exemple, pour revenir sur le sujet de la mécanophilie qui m'a beaucoup perturbé, parce que, en effet, moi non plus, comme Spike Lee, j'avais jamais vu ça dans un film, à aucun moment il n'est question scénaristiquement de pourquoi est-ce qu'elle est mécanophile. À aucun moment, cette idée même de la mécanophilie ne sera développée. Elle va avoir des conséquences à la fin du film, mais à aucun moment. Cette situation scénaristique, en fait, ne va nourrir quelque chose pour construire le personnage. Et en fait, je pense que c'est ça qui a beaucoup perturbé les gens, et moi le premier, c'est que, comme on est dans un cinéma formaliste, nous avons accès à des images qui, ne portant pas d'autres contenus qu'elles-mêmes, c'est-à-dire d'autres contenus que leur propre puissance, eh ben, on se demande ce que le film est en train de nous raconter, en fait. Et on en revient à un truc hyper primaire qui est, mais attends, de quoi il parle ce film en fait? C'est quoi le rapport entre ça et... Et on en vient du coup, bah, en tout cas ça a été mon cas, à avoir une expérience extérieure, parce que ces images n'étant pas nourries de contexte scénaristique et étant dans une pure démarche esthétique de formalisme, bah, pour le dire très prosaïquement, je m'en fous de ce qui se passe et je suis pas investi émotionnellement. Parce que je n'ai pas ce terreau scénaristique, ce terreau narratif qui fait le lien. Et comme Le film, contrairement, on revient à Refn, parce que pour moi, il y a des ponts analytiques à faire, notamment avec The Neon Demon, par exemple. Contrairement à Refn, où son objectif esthétique est clairement de nous placer dans une espèce de contemplation cauchemardesque, Titane, par les thématiques qui ont lieu dans les situations, a l'air d'avoir envie de traiter des trucs un petit peu plus profonds, quand même, d'avoir envie de... Ça parle d'identité, de construction du genre, ça parle de comment est-ce que notre désir d'amour, en fait, fait de nous des monstres. Je pense que c'est tout ça, en fait, c'est ça le sujet du film. Mais je n'arrive pas à être réceptif à cette proposition-là, puisque, selon moi, l'hyper-formalisme du film ne permet pas, ne me permet pas à moi en tant que spectateur d'être réceptif à la puissance scénaristique de ce qu'il entend me raconter. Ça, voilà, c'est ce que j'ai réussi à construire comme propos sur le film. Mais en y réfléchissant un peu plus profondément, notamment sur ces questions de formalisme, contexte scénaristique des images et des situations, il y a autre chose qui m'est venue, et notamment sur le sentiment d'avoir été perdu dans un film qui, pourtant scénaristiquement, est relativement simple. Je veux dire, le film n'est pas du tout, ne s'ancre pas du tout dans une démarche onirique ou cauchemardesque qui fait que je devrais douter des images que je regarde. Non, non, le film est très premier degré, très frontal, et ça me va très bien. Je veux dire, c'est pas du tout un reproche. Mais pourtant, du coup, moi qui suis perdu, parce que c'est ça, en tant que spectateur, j'ai été perdu devant ce film, je m'interroge là-dessus. Et je pense qu'en fait, ce sentiment de perdition qu'on a ressenti vient aussi du fait que une démarche de pur formalisme, et en tout cas, voilà, je reprends Refn, parce que Refn est vraiment l'incarnation de ça dans le cinéma contemporain. Bon, ce serait pas le seul, évidemment, on pourrait citer, je sais pas, comme autre metteur en scène vraiment strictement formaliste, on pourrait citer quelqu'un comme Happy Chapong vers Assez Ta Cool. Voilà, hein, quand tu regardes Cemetery of Splendor, c'est quand même un film qui n'existe que par son formalisme, et par la force de ses images, et c'est un très 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 bon film, si vous n'avez pas vu Cemetery of Splendor, qui n'a rien à voir avec le registre de Titane, mais bon, on est aussi là pour découvrir des films. Cette logique, en fait, et c'est pas un hasard que je parle de Vers Assez Ta Cool et de Refn, parce que, fondamentalement, quel est le lieu où nous, les humains, sommes en contact uniquement avec des images hyper puissantes, hyper significatives, et qui sont déconnectées en fait d'un contexte, d'une histoire, d'une intrigue, et qui ont simplement valeur pour elles-mêmes, bah c'est dans le monde onirique. Et je pense qu'il faut comprendre Titane dans une logique d'écriture qui en fait est onirique. Onirique au sens de vraiment, je pense que Titane est écrit comme un rêve. Et si on a cette approche, c'est-à-dire de se dire que, ok, le film est décousu, mais c'est normal parce qu'un rêve, c'est décousu. Ok, le film a beaucoup de références qui coexistent les unes avec les autres, mais c'est normal parce que quand on rêve, dans l'inconscient, notre inconscient procède au même type de chaos de références. Voilà, si on commence à rentrer dans cette logique-là, on comprend un peu mieux ce qu'elle a essayé de faire. Ça veut pas dire que j'aime le film, hein. Je veux dire, voilà, moi, encore une fois, Christine et Crash, c'est pas des références qui m'intéressent. Donc ce que le film référence déjà de base ne m'intéresse pas. Mais, comprenant ça, j'ai l'impression, en fait, d'avoir accédé à quelque chose que le film avait du mal à me transmettre. Et c'est peut-être de ma faute à moi, aussi de spectateur, hein, je remets pas forcément ça en cause sur la réalisatrice, qui est également donc scénariste du film, je pense que je l'ai pas précisé d'ailleurs, qui est également donc scénariste du film, parce que elle a fait son truc avec ses références, sa façon de faire, son formalisme, voilà, ostentatoire, baroque, complètement revendiqué, il y a pas de souci. Mais moi, n'y étant pas réceptif, et c'est normal, on n'est pas toujours réceptif à des propositions, bah forcément, je suis un peu en retrait. Et lorsque Titane gagne la Palme d'Or, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que je m'interroge du coup sur la raison pour laquelle on donne ce type de prix à un film aussi clivant. Parce que le film a clivé. Et on voit d'ailleurs que c'est intéressant que les avis sont majoritairement partagés entre le rejet et l'adhésion complète. Il y a très peu d'avis juste milieu sur le film. Ce qui dénote d'ailleurs du fait que si on rejette le film, c'est qu'il y a quelque chose à rejeter. Et que c'est pas un film qu'on peut prendre de haut en disant bon, c'est débile, elle a essayé de faire un truc, en fait, il y a rien, elle a rien à dire. Non, elle a pas du tout rien à dire, elle a plein de choses à dire même. Simplement, la question c'est est-ce que ce qu'elle dit est audible pour les références de tous les spectateurs? Ça, c'est un autre débat. Et donc, en ça, le film est très clivant. Et pour moi, c'est plus de cette façon-là qu'il l'est. Il est beaucoup plus clivant, ce film, au niveau de sa forme, c'est-à-dire de la façon dont le scénario est écrit, de la façon dont il est mis en scène, que d'un point de vue concrètement de ce qui est montré à l'image. C'est-à-dire, on a dit que le film était hyper choquant, moi je trouve pas du tout. D'ailleurs, j'étais presque déçu que le film ne soit pas plus choquant que ça. Et on a dit que le film était... voilà, après vous allez me dire, oui, c'est des avis... à chaud, à Cannes, etc. Oui, certes, mais d'un autre côté, moi, quand tu me vends ce film devrait être interdit et que j'arrive devant le film, je dis bon, bah alors c'est quand ou la scène où le film devrait être interdit parce que j'attends toujours. Faut pas créer de rapport déceptif au film, voilà, chez les spectateurs qui ne l'ont pas encore vu non plus. Et en sacrant ce clivage, en fait, ça a réactivé toutes ces hésitations que j'avais par rapport à mon avis sur le film où je vois qu'il y a quelque chose de très construit, où je vois qu'il y a une vraie démarche de mise en scène, mais à laquelle j'arrive pas à adhérer. Clairement, ce qui a été sacré, c'est la proposition du film. Titan est un film qui propose quelque chose. La question maintenant est de savoir si ce type de récompense qui donne une visibilité gigantesque au film se doit de sacrer une proposition clivante ou une proposition certes radicale, mais qui va pouvoir ratisser plus large. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a entendu chez les gens qui critiquaient la remise de cette palme à Julia Ducournau sur le fait que voilà, c'est un film hyper clivant que de toute façon personne ne va aller voir, etc. Ou en tout cas pas le public majoritaire qui va voir le type de films qui sont récompensés dans ces festivals. Et ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est quelqu'un qui n'a pas aimé le film qui vous le dit. Je pense que le fait de remettre la palme d'or à Titane envoie un message très très fort sur l'idée qu'il faut oser dans le cinéma, que l'on peut oser, et que l'on sera compris dans notre démarche d'oser faire des choses différentes. Parce que ce film est différent. Je sais pas si cette différence est nécessairement une richesse, parce que moi j'ai pas du tout été réceptif à cette différence, mais la porter cette différence en étendard d'un cinéma à venir, moi c'est quelque chose que je trouve extrêmement réjouissant. Et en cela, et encore une fois, j'ai pas aimé le film. Il y a des trucs bien dans le film, parce que voilà, j'ai quand même été très négatif, mais il y a quand même des trucs bien dans le film. Hein. La photo est vachement bien. Vincent Lindon est incroyable dedans. Agathe Roussel aussi, d'ailleurs. Même, c'est surtout Lindon, moi, qui m'a beaucoup choqué, parce qu'Agathe Roussel, je ne la connaissais pas. Faut dire aussi que c'est son premier film. Mais elle est vraiment très bien dans le film, et Julia Ducournau arrive totalement à l'iconiser comme une sorte de personnage mutique. Enfin, c'est vachement. Le film est très réussi, de toute façon. Mais voilà, hein, pour résumer toutes les réflexions que ce film a suscité chez moi, je m'en suis posé des questions, et ça faisait longtemps que je m'étais pas posé autant de questions sur ma réception d'un film après avoir vu Titane. J'espère que les écouter, ces réflexions, vous aura intéressé. J'espère qu'elles auront nourri des réflexions chez vous, ou pas. D'ailleurs, vous me direz ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée, puisqu'il sort en pleine soirée. Je vous souhaite de faire de beaux rêves et je souhaite que votre espace onirique soit terreau de propositions formelles, esthétiques, aussi puissantes que celles que nous a offert Ducournau avec ce Titane. Très bonne soirée à tous. N'oubliez pas de vous abonner quand même et de lâcher un petit pouce, de partager tout ça, parce que ça fait plaisir, hein, et que ça fait vivre les chaînes. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. À la prochaine. Salut.